Bonjour à tous, bonjour aux présents qui sont là. Bonjour à ceux peut-être qui ne sont pas venus ce matin. Mais nous voulons poursuivre notre étude du livre d'Esther aujourd'hui et nous en sommes au chapitre 8. Prions avant tout. Seigneur notre Dieu, tu nous parles par ta parole, par des textes anciens. Une histoire d'Esther, 2500 ans en arrière, et qui nous parle de toi, de ce que tu fais, et même si on ne parle pas de toi dans ce livre, tu es là. Et tu es là aussi pour l'Église, et pour notre Église aussi ce matin. Ouvre nos cœurs, conduis-moi aussi dans l'humilité de la présentation de ta parole de partage pour que nous puissions nous enrichir de ce que tu as à nous dire. En ton nom, amen. C'est assez étrange que cette étude du livre d'Esther, pendant quelques dimanches, ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à prendre le livre d'Esther. Ce n'est quand même pas si long. 9 chapitres plus un 10e tout petit à relire pour voir quel est ce récit historique. Étrange que cette étude coïncide avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Actuellement, pour nous réveiller dans un monde troublé, encore plus troublé qu'avant, et où bien des gens sont en panique. Près de 900 Belges demandent à être rapatriés ce week-end. Et je lisais hier qu'un premier avion allait décoller aujourd'hui, mais comme parfois, comme c'est arrivé à un avion d'Air France, il a dû faire demi-tour parce qu'il y avait des tirs. Ces 900 Belges, comme d'autres, passaient des vacances paisibles dans les Émirats, par exemple, soit qu'ils y vivaient comme expats pour travailler, ou pour y trouver certains, comme les influenceurs notamment, un espace fiscal favorable. Et soudain, tout bascule. Ce n'est pas encore la terreur partout, mais l'inquiétude grandit. Le diesel que je prends à la pompe coûte à peu près 2 euros. On n'en mourra pas, mais ceux qui ont une voiture électrique se réjouissent parce que ça coûte moins cher aujourd'hui. Où tout cela va-t-il nous mener? Un troisième porte-avions américain sera déployé pour soutenir la sécurisation du détroit d'Ormuz. J'entendais un jeune qui était interviewé sur France Info cette semaine et on lui parlait de l'approvisionnement en pétrole et qu'est-ce qu'il en pensait. Il dit « Ah oui, je pense qu'il y a des détroits là-bas ». Ben non, il n'y a pas des détroits, il y a un détroit d'Ormuz qui est fermé. 20% du pétrole mondial passe par là. Et on découvre que la Russie donne des informations précises à l'Iran ou ce qu'il en reste du gouvernement pour envoyer des missiles et des drones sur des objectifs précis de l'armée américaine. Israël, quant à lui, étend ses attaques au sud Liban pour neutraliser le Hezbollah, qui est un proxy, comme on dit, comme le Hamas l'était à Gaza, proxy des Iraniens. Israël veut sécuriser sa frontière nord. Nous ne ferons pas de politique ce matin et on n'est pas là pour ça. Mais il arrive que la réalité rejoigne l'histoire avec un grand H, celle du passé et celle du présent, avec des conséquences qui inquiètent nombre de contemporains. Je crois que, premièrement, ces événements doivent nous réveiller de notre torpeur. À la fin de notre réunion de prière d'il y a 10 jours, j'avais mentionné que nous n'avions pas prié pour la paix de Jérusalem. Ce n'est généralement pas notre préoccupation première. J'ai relu ce que j'avais surligné dans ma Bible sur ma tablette et j'ai été frappé par une sorte d'humour grinçant, tout comme le réalisme de situation rapportant ces circonstances dans le livre d'Esther où Aman se présente au roi et se fait littéralement désinguer par Assuérus alors qu'il croyait sortir avec tous les honneurs. Assuérus, je regrette pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, mais Assuérus l'humilie et le trouve affalé près du siège de la reine Esther pour quémander la clémence. Le grand vizir qui voulait tuer tous les juifs et qui avait incité un décret dans ce sens, quémande maintenant la clémence de la reine Esther. Et le roi se demande si Aman ne va pas violer la reine. Aman finira par être pendu chez lui, dans son jardin, au gibet qu'il avait érigé pour Mardoché, l'arroseur arrosé. Et c'est ce que nous avons vu à la fin du chapitre 7 la semaine dernière. Le chapitre 7 se termine en effet par la mort tragique d'Aman. Et je ne peux évidemment pas reprendre tout le fil de cette histoire, mais nous avons été amenés à découvrir bien des aspects surprenants de l'histoire du peuple juif déporté dans l'Empire perse, l'Iran d'aujourd'hui, par la volonté de Dieu, non pas comme des migrants, mais comme le dit Esther, devenue reine, face au décret toujours en vigueur du roi Assuérus. L'ennemi des Juifs, Esther dit au verset 3 et 4 du chapitre 7 à son roi, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Et si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Tout a changé à la cour. Esther s'est dévoilée, si je puis dire, et elle a pris maintenant le risque de demander la clémence du roi pour son peuple. Et nous l'avons vu dimanche dernier, le roi demande à Esther « Qui est celui qui veut agir ainsi, ce grand vizir qui veut la fin du peuple juif en Perse ?» La réponse d'Esther est « Notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Esther 7, verset 6. La haine des Juifs, c'est ce qui animait Aman. On va faire un petit tour ailleurs dans la Bible pour comprendre un peu comment ça se fait que Aman avait cette haine des Juifs. Les Amalécites sont présentés comme les descendants d'Amalek, petit-fils d'Ésaü. Ésaü était le frère aîné de Jacob qui devint Israël. Et la Bible hébraïque rapporte qu'Ésaü haïssait Jacob, car ce dernier l'avait spolié de son droit d'aînesse. Certains se souviennent peut-être de cela. Aman est désigné comme un Agagite, ce qui le lie à Agag, roi des Amalécites, peuple ennemi, héréditaire d'Israël, descendant d'Ésaü. Et Esther 3, au verset 1, nous lisons « Aman, fils de Hammedata, l'Agagite, descendant de la lignée d'Amalek, un peuple que Dieu avait ordonné d'effacer de la mémoire. » Et on va voir un peu de cette histoire pour mieux saisir ce qui se passe dans le livre d'Esther. Cet antisémitisme viscéral qui sévit encore aujourd'hui. On comprend mieux le conflit entre Aman, l'Amalécite, et Mardoché, descendant du roi Saül, qui avait épargné Agag. Saül, bien sûr, pas Mardoché. Dans 1 Samuel 15, nous lisons « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, après que tout ce peuple ait été passé par l'épée. » Alors, que s'est-il passé ? Tiens, à propos, Mardoché est un descendant de la tribu de Benjamin. Et certains font aujourd'hui le rapprochement avec le prénom du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Je n'ai pas dit que je souscrivais à ce rapprochement, mais c'est anecdotique. Peut-être. En Exode 17, les versets 8 à 15, nous lisons « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Et Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, bonjour les crampes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Et Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués, pas seulement aux Juifs, mais bien plus que ça, ils sont attaqués au trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Et en Deutéronome 25, les versets 17 à 19, nous lisons le jugement futur d'Amalek. Verset 17, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu, c'est extrêmement important, il est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent, et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » Et dans le livre de Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 1er, nous lisons jusqu'au verset 3, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. » Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Ce n'est quand même pas négligeable. « Va maintenant frapper les Amalécites, vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, etc., etc. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. Et au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et puis Samuel va trouver Saül qui lui explique ce qu'il a fait. Et Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül de justifier son comportement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. C'est là qu'on trouve ce passage. Finalement, Saül se repent de son péché, mais il perd la royauté sur Israël. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Et puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et c'est là qu'on retrouve un peu de similitude avec Aman, qui pense être honoré par le roi Assuérus dans notre histoire d'Esther et qui finit pendu. Alors je reviens au chapitre 15 d'un Samuel au verset 32. « Agag s'avança vers Samuel d'un air joyeux. » Et il se disait certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. Et au verset 33, Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Ceci met la haine des Juifs dans le chef d'Aman en perspective à ce qui va suivre au chapitre 9. Puisqu'aujourd'hui, l'institution de la fête de Pourim qui commémore les massacres du chapitre 9 est toujours célébrée par les Juifs. Et étonnamment, et il en sera question dans le chapitre suivant, dimanche prochain, Pourim, c'était la semaine qui a immédiatement suivi le raid israélien du samedi 28 février et qui a tué l'ayatollah Khamenei. Était-ce calculé ou non ? Je n'en sais pas plus que vous. Mais cela étant, la portion de la Torah cette semaine dit « Souvenez-vous de ce qu'Amalek vous a fait » et le premier ministre israélien de comparer les Iraniens aux Amalécites. L'agence de presse israélienne voilà, a rapporté que le fils de Netanyahou a été vu en train de danser lors de la cérémonie de Pourim. L'anniversaire du massacre des Iraniens à l'époque de Xerxès Ier, Assuérus dans notre texte. Cela a suscité des critiques, même dans les milieux israéliens. Le premier ministre Netanyahou a par ailleurs lié la cérémonie de Pourim aux attaques contre l'Iran, faisant référence à l'histoire du livre d'Esther. Il a affirmé qu'il répétait le même événement. La fête de Pourim revient à un événement au cours duquel Esther, bien sûr, la reine juive et Mardochée, par une conspiration à l'époque de Xerxès Ier, ont permis la promulgation d'un décret qui a conduit au massacre des Iraniens. Fin de citation. C'est le décret dans notre passage au chapitre 8. Le jour même, chapitre 8, début du chapitre 8, de la pendaison d'Aman, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther, et Mardochée eut à se présenter devant lui car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Esther, la pauvre fille recueillie par Mardochée, son cousin germain et son tuteur, père adoptif, juif de la tribu de Benjamin, déporté à Suse, il a élevé Esther, orpheline, et l'a amenée à devenir, à son instigation, reine de Perse. Et nous savons que les préoccupations premières étaient non pas de sauver le peuple juif, mais d'être la plus belle et de concourir d'entre les 400 vierges présentées au roi. Et pourtant, nous découvrons maintenant qu'elle a révélé ses origines, qu'elle peut jouer un rôle pour la protection non seulement de sa personne, mais bien au-delà d'elle-même, pour son peuple. De même, nous devons nous souvenir que Mardochée avait prévenu d'un complot contre le roi et que le roi ne l'avait pas remercié. Et toutefois, le fait avait été écrit dans un registre, ce qui a été utile pour honorer Mardochée un peu plus tard. Dieu n'est jamais mentionné, et pourtant, des circonstances permettent, malgré les failles du début de cette histoire, à concourir à la protection du peuple juif. Esther est riche maintenant, parce qu'Aman était un vizir avec du pouvoir dans un énorme empire. Le roi retira, verset 2 du chapitre 8, retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Et Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Au verset 3, puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman. La Gagite. On sait ce que ça signifie maintenant pour le peuple juif et à ses projets contre les juifs. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors et s'est debout devant lui, et peut-être que ce n'était pas courant que la reine se tienne comme ça soudain debout devant le roi, et qu'elle dit « Si tu le juges bon, ô roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer la lettre conçue par Aman, fils d'Amedat l'Agagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple, à la disparition de ma famille ? Je voudrais rappeler les propos de Zérès, la femme d'Aman, après que ce dernier lui ait exposé son humiliation par le roi. C'est dans la deuxième partie du verset 13 du chapitre 6. Et sa femme lui dit « Si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » En Nombre 23, au verset 9, le devin Balaam a prophétisé ce qui suit. « Voici, je contemple du sommet des rochers et du haut des collines. Je le regarde, je le vois. » C'est un peuple qui demeure à l'écart et il ne se considère pas semblable aux autres peuples. À la fin de sa vie, Moïse s'est écrié « Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi, un peuple secouru par l'Éternel lui-même ? Il est le bouclier qui vient à ton secours et il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. » Deutéronome 33, verset 29. Et le psalmiste déclare au psaume 47, verset 20, « Ce que Dieu a fait pour Israël, il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple. » Et pourtant, quelle que soit notre perception ou notre opinion sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran, les bombes américaines et israéliennes, et au sud Liban contre le Hezbollah, force est de constater que l'antisémitisme est une très vieille histoire et qu'elle persiste encore aujourd'hui plus que jamais. Au psaume 83, verset 5, ils ont dit « Exterminons-les et que leur nation disparaisse, afin que le nom d'Israël sombre pour toujours dans l'oubli. » 16 siècles avant Jésus-Christ, le pharaon donna l'ordre de jeter dans le Nil tous les garçons qui naîtraient chez les Hébreux, et sur un monument égyptien, on peut lire « La race des Hébreux s'éteindra ». En 588 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor détruisit Jérusalem et déporta le peuple juif à Babylone. En 453, c'est l'histoire d'Esther avec le roi de Perse, Assuérus, avec le risque du massacre dans 127 provinces de l'Empire perse. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane fit subir aux Juifs une terrible persécution. En l'an 66, les Juifs furent persécutés à Césarée. Les Syriens aussi massacrèrent des Juifs. À la même époque, à Alexandrie, 50 000 furent chassés dans un ghetto. Ça vous fait penser à quelque chose, le ghetto ? Peut-être à Varsovie. Furent chassés dans un ghetto où ils moururent de faim et où ils furent tués. En l'an 70, Titus prit Jérusalem et dispersa Israël à travers toute la terre. 1 million de Juifs périrent. En l'an 135, n'en jetez plus, l'empereur Adrien réagit au soulèvement des Juifs qui s'étaient laissés influencer par un prophète, faux prophète, en détruisant 985 villes de Palestine et fit périr 580 000 hommes. D'autres moururent de faim, de maladie ou dans les incendies. 100 000 furent vendus comme esclaves. On interdit alors aux Juifs de remettre les pieds sur le sol de Palestine. En 1096, première croisade aussi de Godefroy de Bouillon qui proclama l'extermination de tous les Juifs pour venger la mort du Christ. La deuxième croisade fut plus meurtrière encore et on accusa les Juifs d'accomplir des meurtres rituels. En 1236, les croisés envahirent les colonies juives de l'Anjou en France et du Poitou en leur proposant le baptême chrétien. Et s'ils refusaient, ils étaient écrasés sous les sabots des chevaux. 3 000 périrent ainsi. Les communautés juives de Londres, au XIIIe siècle, juives de Londres, Winchester et Cambridge, furent presque complètement décimées, chassées du pays par le roi Édouard Ier et ne purent y revenir que 370 années plus tard. On en tue la même année en Franconie, en Bavière et en Autriche. Pendant la peste noire, au XIVe siècle, on accusa les Juifs d'empoisonner les sources. Nombreux furent ceux qui émigrèrent en Pologne et en Russie, et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de Juifs là-bas. En Espagne, au Portugal, on les expulse. L'Inquisition fait quelque 300 000 victimes juives. Et en 1818, des massacres terribles en Ukraine. Et on en vient aux 6 millions de Juifs tués par les nazis entre 1933 et 1945. En mai 1967, lors de la guerre des Six Jours, Nasser déclara, l'Égyptien, « Notre objectif principal sera de détruire Israël. Rien n'a changé depuis. » Florent Varac relève quant à lui ce que déclare Luther au sujet des Juifs. Luther qui écrit que c'est un peuple de débauche et que leur fanfaronnade sur leur lignage, la circoncision et leurs lois doivent être considérées comme une cochonnerie. Triste. Leur survie, ils le doivent à Dieu. Au XVIe siècle, après les massacres du Moyen-Âge, il n'y avait plus qu'un million de Juifs en Europe. Au XVIIIe siècle, leur nombre s'était multiplié par 3. Et un siècle plus tard, ils étaient 5 millions en 1896, 11 millions en 1933. 16 millions, c'est-à-dire 3 fois plus qu'au temps de David et Salomon. Hitler, après, a fait son œuvre. Satan a fait son œuvre. Le Deutéronome parle de dispersion parmi les nations, Deutéronome 4, 27, et d'angoisse et de souffrance à cause de leur infidélité. 28, Deutéronome 28. Nous savons aujourd'hui qu'en terre d'Israël vit un peuple sur une terre riche et développée. Le peuple d'Israël protégé, châtié, mais gardé vivant par la volonté de Dieu, la lignée qui donne naissance au Messie est gardée par Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement dire qu'Israël a été remplacé par l'Église comme peuple de Dieu. L'Église du Nouveau Testament part d'Israël et son noyau de départ est constitué de Juifs qui accueillent Jésus comme le Messie promis. Les non-juifs sont des branches qui sont greffées au tronc qu'est Israël, conformément à l'image de l'olivier que Paul utilise en Romains 11, les versets 17 à 24. Ils deviennent ainsi concitoyens des saints, Éphésiens 2, verset 19. Et Paul parle aussi de l'Israël de Dieu en Galates 6, au verset 16, à savoir l'entité spirituelle composée des Israélites qui ont reconnu en Jésus le Messie et auxquels ils ont été agrégés, ont été agrégés les païens qui ont fait de même. Le salut vient des Juifs, dira Paul, et cela n'implique pas que l'Israël historique, l'Israël selon la chair, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, n'ait aucun avenir dans le plan de Dieu. Paul refuse l'idée que Dieu aurait rejeté son peuple, en Romains 11, verset 1. Il précise le caractère paradoxal de leur situation aux yeux de Dieu. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis, et en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres, Romains 11, verset 28. Et il ajoute que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, au verset 29 du même chapitre. C'est ce que développe Alanisius dans son ouvrage « Pour une foi réfléchie ». L'hostilité vis-à-vis des Juifs et l'antisémitisme relèvent probablement d'une jalousie qui se transforme en haine à cause de l'élection par Dieu du peuple d'Israël, qui reste néanmoins un peuple non régénéré. Cette élection n'est pas par rapport au salut, parce que le simple fait d'être juif ne garantit pas d'être sauvé. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il lui a déclaré que tous les peuples de la terre seraient bénis à travers lui et sa descendance, Genèse 12. Le plan de Dieu dans l'élection d'Israël était donc la bénédiction des nations. C'est en vue des nations qu'Israël a été choisi. Le peuple juif a joué un rôle important dans l'histoire du salut et a bénéficié de privilèges importants que Paul détaille en Romains 9, 4 à 6. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Et comme le prophétise Ézéchiel au chapitre 39, les versets 27 à 28, au sujet de la réintégration dans leur propre pays. « Lorsque je les ramènerai du milieu des nations, que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis et que je manifesterai ma sainteté par ce que je ferai en leur faveur aux yeux de nombreux peuples, ils reconnaîtront que je suis moi, l'Éternel leur Dieu, car je les ai envoyés en exil parmi les nations et puis je les ai rassemblés dans leur propre pays sans en laisser un seul là-bas. » Tout cela n'est pas encore pleinement réalisé, mais attendons quelque peu. Perspective qui doit nous éveiller à ce que Dieu promet et qui n'est pas encore tout à fait accomplie. Alors au verset 7 de notre chapitre, le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché : « J'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. » Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Le roi ne révoque pas son précédent décret et il ne demande même pas pardon pour avoir cédé à Haman pour détruire le peuple juif. Alors, on convoque les secrétaires et on écrit un nouveau décret. On écrit ce message au nom du roi, verset 10. Et l'on y apposa l'empreinte du roi. Avec l'empreinte du roi, ce décret est irrévocable. Mais finalement, le roi ne se met pas en danger politiquement puisqu'il ne révoque pas son premier décret, mais il en fait laisser rédiger un autre. Alors on envoie dans les 127 provinces le nouveau décret. Et le roi y autorisa les juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, au verset 11, à se rassembler et à défendre leur vie, et c'est un peu choquant, n'est-ce pas, en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens. Cette autorisation concernait toutes les provinces du roi Assuérus, mais était valable un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples. Afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance contre leurs ennemis. C'est un peu difficile à accepter aujourd'hui, n'est-ce pas ? Un décret de vengeance. Mardoché sortit de chez le roi porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. Verset 16, les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux. On a comme un problème moral face à un décret qui incite au meurtre. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu approuve, notamment dans les récits historiques, et c'est le réalisme de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Les hommes restent les hommes, ils restent vengeurs. Et Dieu oriente la folie meurtrière des hommes sans les dédouaner de leurs actes. Et c'est très difficile à comprendre. On a un Dieu souverain, il n'est pas gêné ni par les émotions, ni par le diable. Et ce Dieu qui est absolument souverain, qui règne sur des hommes pécheurs. Mais la manière dont il règne est incompréhensible pour nous parce que les hommes restent violents et colériques. Et Dieu va les orienter pour accomplir un projet que nous comprenons difficilement. Le deuxième décret est fort semblable au premier. C'est rédigé dans les mêmes formes. C'est le droit de l'époque, sans doute, une formulation qui est habituel, mais de toute manière, le deuxième décret a pu être publié et ça protège le peuple juif. La lignée perdurera dans le temps. La lignée qui va donner naissance au Fils de Dieu, le descendant de David. Remarquez que les couleurs du drapeau israélien, blanc et bleu, sont la couleur du vêtement de Mardoché lorsqu'il sort de chez le roi. Une grande tradition. Pourquoi Haman a voulu tuer tous les Juifs? Simplement parce que Mardoché refusait de se prosterner devant lui, si vous avez suivi les précédentes éditions. Ce n'est pas pour juste un refus de s'incliner devant le grand vizir. Il y avait bien plus que cela. On ne tue pas un peuple parce qu'une personne ne se prosterne pas. Mais c'est parce qu'il y avait derrière tout cela une volonté de casser le plan de Dieu, le plan du salut qui allait voir le jour dans les évangiles. Dieu a un plan de salut même pour les plus misérables d'entre nous. Un plan de salut pour l'accomplir, et il fallait que Jésus naisse d'une vierge au sein d'une famille d'Israël, et que parfois il a fallu nettoyer le chemin. C'est difficile à comprendre, mais c'est ce qui se produit. Aucun être humain ne peut dire, comme on l'entend parfois aujourd'hui, qu'il s'agit d'une guerre sainte, qu'on ait le droit de tuer. Dieu seul a cette autorité. Et de ce côté-là, c'est un mode de communication qui n'a plus cours aujourd'hui. Et pourtant, nous voyons de lourdes batailles au Moyen-Orient aujourd'hui. Alors, gardons-nous de tirer des conclusions ou d'approuver ou de désapprouver, mais restons attentifs à ce que Dieu dit dans l'Écriture. Le salut est arrivé, il dirige maintenant les nations, mais l'adversaire agit toujours aujourd'hui contre ce que Dieu veut. Mais Jésus a exhorté ses enfants à aimer leurs ennemis, et c'est peut-être quelque chose de très difficile pour chacun d'entre nous, de briller comme témoin de la lumière que Dieu a mise dans nos cœurs. Dieu est le seul juste juge, et ce qu'il a ordonné dans le passé n'est pas reproductible aujourd'hui, après la survenance de la grâce pour tout homme. Ézéchiel 18, 28 dit « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas de le voir changer de conduite et vivre ? On peut se souvenir de Jonas, n'est-ce pas, irrité de ce que les Ninivites avaient changé leur attitude vis-à-vis de Dieu. Mais malgré tout, et sans doute qu'on le verra dimanche prochain dans le dernier grand chapitre, que ces jugements-là sont sans doute des modèles du jugement à venir, puisqu'il est dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Et malgré tout, il y a un peu de similitude avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec ce que fait Israël, avec l'aide des Américains, d'accord. Mais ce décret ne tue pas tous les Iraniens, ne procède pas à la mort de tous les Iraniens. Et c'est une forme d'autodéfense qui est préférable au génocide du premier décret. C'est quand même une grande différence. Le premier décret demandait l'extermination, de tuer, de faire périr tous les Juifs. Donc il y a une grande différence. On dit qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Liban et en Iran est une action préventive pour protéger Israël de ses ennemis. Personnellement, je doute que ce soit définitif et que la paix de Jérusalem arrive maintenant. Tant de choses doivent encore arriver, mais l'implication complexe de nombreuses nations s'accélère. La Russie et la Chine, je l'ai encore entendu ce matin, fournissent des indications aux Iraniens pour cibler les Américains, et on parle déjà d'une résistance de plusieurs mois. Malgré que l'on voit Donald Trump prier avec ses proches collaborateurs dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Belle communication, mais qu'en sera-t-il ? Soyons éveillés, apprenons ce que dit la parole de Dieu pour comprendre et discerner, pas pour prédire. Saisissons l'occasion pour parler du jugement et du salut à ceux qui nous entourent. Nous sommes souvent trop timides, comme Esther, qui était timide et qui cachait ses origines. Et puis elle a compris. La réalité des églises aujourd'hui n'est rien de banal. J'allais à Libramont hier, on avait une réunion dans l'association, et je me disais, en rentrant dans Libramont, je vais dans une église. Ça n'est pas banal. Elle existe. Elle est là. Il y a un témoignage. Parler de maintenir des églises, c'est quelque chose d'important. Le témoignage est important. Esther a pleuré. devant son Dieu. Et j'ai vu des pleurs hier d'une jeune dame qui pleurait à cause de personnes qui n'ont pas des intentions pures dans une église. Elle disait, je veux m'engager, je veux faire plus. Et pourtant, ma santé m'empêche de pouvoir m'engager de manière constante. Mais pourtant, elle le veut. Nous cherchons des solutions, des réponses à des problèmes. Prions le Seigneur et soyons trouvés fidèles là où nous sommes. Lors de notre récente réunion de prière, on a évoqué le fait d'être des sentinelles. Quel genre de sentinelles sommes-nous ? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager ? Est-ce que nous sommes prêts à faire plus ? À être plus près du Seigneur ? Pour qu'il nous encourage ? Pour qu'il nous stimule ? Être près de lui, c'est ça qui nous vivifie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, n'est-ce pas, après ce deuxième décret, et on ne voit pas encore sa réalisation, c'est pour dimanche prochain, mais ils ont encore fait des festins et ils se sont réjouis. Un nouveau décret qui change les vies, qui rassure. Alors, pensons à la fin du livre de Zacharie. Pour conclure, après avoir ébauché tout cet antisémitisme et d'où venait cet antisémitisme d'Aman, en Zacharie 12, message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Verset 2, je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Et puis nous voyons dans la fin du chapitre 8 que les Iraniens, les Perses de l'époque, judaïsent. Ah, ils s'approchent des Juifs parce que maintenant les Juifs, la reine est juive, Mardoché, le grand vizir, est juif maintenant. Et il est bon d'être près de ceux qui ont le pouvoir et qui sont proches ou qui sont proches du pouvoir. Alors ils judaïsent. Est-ce qu'ils se font circoncire ? On ne le dit pas. Mais en tout cas, ils s'approchent des Juifs pour être peut-être protégés et se sentir mieux. Au chapitre 14 et au verset 2 de Zacharie, on dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ». L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Pour ceux qui pensent que c'est figuratif, je crois que ceci n'est pas encore réalisé. Le Seigneur n'a pas encore posé à nouveau ses pieds sur le mont des Oliviers. Ne croyons pas que tout est symbolique dans ces prophéties. Il est question de combat contre Jérusalem, contre les Juifs, et je ne sais pas si le combat d'aujourd'hui est ce combat-là. Je ne pense pas, mais ce que je pense n'est pas relevant. Comme on l'a vu, Dieu est souverain et Dieu décide. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est de mieux connaître sa parole, et puis d'écouter Dieu et de témoigner.